Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le principe de l'émission au film des pages de Michel Bijbois rapprochait deux créateurs. Un metteur en scène de cinéma d'une part, l'auteur d'un livre consacré à ce cinéaste d'autre part, un livre venant de paraître. L'univers de François Truffaut, au début des années 70, après plus de 10 ans de production, des Mistons à Une belle fille comme moi, en passant par Les 400 coups, Jules et Jim, Fahrenheit 451, La mariée était en noir, Baiser volé, La sirène du Mississippi, L'enfant sauvage, cet univers ne pouvait que passionner une cinéphile. Filmer des personnages, ou les personnages, selon François Truffaut, était plus important que les situations. Et encore, fallait-il ajouter, une égalité de regard sur tous les personnages. Les films les plus nécessaires d'une carrière cinématographique, selon Truffaut, les trois premiers que l'on tourne. Au film des pages, par Michel Bijbois, première diffusion sur France Culture le 31 mai 1972.
Au film des pages, l'univers de François Truffaut, décrit par Dominique Fan, dans la collection 7e art, aux éditions du Cerf.
J'ai choisi d'étudier l'œuvre de François Truffaut pour des raisons qui étaient, je crois, assez personnelles. C'est-à-dire que ce sont des films que j'ai vus très jeune. J'ai commencé à voir ces films très jeune et j'y retrouvais... dès le départ, des obsessions et des fantasmes qui m'étaient personnels. Et au départ, ça m'a intriguée. Et puis après, j'ai voulu étudier ces films, peut-être parce que j'y reconnaissais une partie de moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir, à revoir les films et puis petit à petit à les étudier.
M'a beaucoup troublé parce que je me suis rendu compte que j'avais mis dans ces films beaucoup plus que ce que je croyais y avoir mis. Souvent, c'est une remarque qu'on fait en blaguant ou en ironisant. Vous savez, on ironise souvent sur les critiques qui voient dans les films des choses qu'on n'a jamais eu l'intention d'y mettre. Mais c'est une ironie qui est souvent mal placée parce qu'en fait, on ne fait rien d'anodin. Vous savez, avant de donner une scène à des acteurs, eh bien, il s'est passé quelque chose.
Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés.
Les hommes comme les femmes peuvent trouver un aussi grand plaisir à voir les films de François Truffaut, mais je pense que François Truffaut, lui, voit la vie peut-être d'une façon plus féminine que d'autres hommes.
J'ai souvent eu l'impression que les femmes, les spectatrices, s'intéressaient davantage à mes films ou les comprenaient mieux, disons, que les hommes. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit propre à mes films. Je crois que les femmes, en général, comprennent mieux le cinéma, je crois. Je me souviens, par exemple, des films de Jean-Luc Godard qui donnaient lieu à beaucoup de disputes de couple. Et généralement, les femmes étaient pour, les hommes étaient contre. Les hommes étaient contre parce qu'ils auraient voulu le relier à d'autres films qu'ils avaient vus. Et les femmes étaient pour parce qu'elles n'étaient pas gênées, si vous voulez, de différence entre ce film-là et ceux qu'elles avaient vus avant. Elles étaient disponibles, elles avaient été touchées par tel ou tel aspect, surtout, je parle surtout des films qui mettaient en question des sentiments amoureux. Et je crois que c'est ça, c'est que les femmes pourraient accepter beaucoup plus facilement que les hommes des films, par exemple, sans scénario, ou des films qui ne suivraient pas le cheminement habituel. Ce n'est pas le cas de mes films qui sont assez classiques, qui sont traditionnels et que tout le monde peut comprendre pareillement. Ce ne sont absolument pas des films intellectuels. Mais enfin, j'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient mieux ressentis, mieux compris par les femmes. Oui.
Au tout début de son livre, Dominique Fan a placé une phrase de Roberto Rossellini dont la conclusion est « La tendresse est la vraie position morale ». La tendresse est-elle la marque dominante de vos films ?
On parle souvent le mot tendresse revient dans des articles consacrés à mes films, mais moi c'est un mot que je n'aimerais pas employer moi-même, vous voyez, je n'ai rien à dire là-dessus parce que en général, j'ai plutôt l'impression, quand je tourne ou quand j'ai terminé un film, j'ai plutôt l'impression de dureté ou de quelque chose de clinique ou de quelque chose de peut-être pas froid puisque j'essaie d'être vivant et je crois que c'est important de faire un film vivant parce que si le film n'est pas vivant, il se déroule dans l'indifférence. Et l'indifférence, je trouve, c'est ce qu'il y a de plus abominable au cinéma. Vous voyez, c'est pire que l'hostilité quand un film se déroule et que les gens ont envie de bâiller, de regarder le plafond, à la limite, on pense qu'ils pourraient lire s'il y avait un peu de lumière dans la salle. Ça, je trouve que c'est ce qui peut arriver de pire pour quelqu'un qui fait ce métier. Donc, je préfère l'hostilité à l'indifférence. Mais la tendresse, je n'y pense pas parce que je n'y pense pas. Simplement, c'est évident que je fais un film de personnages où souvent les personnages sont plus importants que les situations. En général, les situations sont assez faibles ou petites. Enfin, pas toujours, pas quand c'est tiré d'un livre, mais généralement, les situations sont petites. Et les personnages sont... J'essaie de les faire vivants. D'un autre côté, comme je déteste... l'idée de privilégier des personnages au détriment d'autres, c'est-à-dire d'avoir des personnages prestigieux, intelligents, spirituels, et d'autres qui seraient idiots et qui leur serviraient de faire valoir, voyez. Même s'il y a des sources classiques à ça, même si Molière, même si on me dit c'est une tradition, je la refuse, cette tradition. Pour moi, l'égalité des gens, mais doit être absolue. Enfin, ça, je la posais comme principe quand j'étais critique. C'était une des raisons pour lesquelles je partais souvent en guerre contre beaucoup de films français. J'ai continué après, je crois, comme cinéaste. Donc il y a une égalité de regard sur tous les personnages. Alors maintenant, la tendresse, ça c'est aux autres d'en parler, s'il y en a. Je me dis pas, il faut être tendre, voyez. Et j'ai l'impression souvent dans des films comme La peau douce ou des films comme Fahrenheit ou des films comme La mariée était en noir, moi j'avais plutôt une impression de dureté, j'avais une impression de quelque chose de clinique.
Trop souvent, le mot tendresse a des sens qu'il faut préciser. Mais je crois d'abord que j'ai voulu citer Rossellini parce que François Truffaut a toujours attaché beaucoup d'importance au cinéma d'Ophuls et de Rossellini et de Renoir. Et pour moi, si vous voulez, Rossellini et Truffaut sont deux cinéastes qui se ressemblent. Donc, encore plus que la phrase, c'est l'homme que je voulais citer en exergue, c'est-à-dire Rossellini. Maintenant, si vous voulez parler de la tendresse, je crois que oui, c'est la marque dominante de l'univers de Truffaut, mais encore faut-il savoir ce qu'on entend par tendresse.
La tendresse de ses personnages ou de son œuvre ?
La tendresse de son regard sur ses personnages.
Louis, mon chéri, tu es loin, à 10 000 kilomètres. Et je profite de ça pour te dire que je t'aime. Quand tu es près de moi, je n'ose pas tellement te parler. Tu m'impressionnes. C'est vrai, même quand tu es tendre, tu m'impressionnes. Et alors, j'ai peur de dire des bêtises. À la Réunion, au début surtout, c'était comme ci, comme ça, entre nous. Mais depuis quelque temps, tu le sens bien, je ne peux plus me passer de toi. Déjà 3 nuits sans toi. C'est trop. Cette nuit, je n'arrivais pas à m'endormir. Je te cherchais. Je n'ai pu m'endormir qu'au petit jour. Et dès que je me suis réveillée, je pensais à toi. Même quand je me suis habillée, je pensais à toi. Tu sais, j'ai mis mon petit chemisier marron, celui que tu aimes. Attends, qu'est-ce que je voulais te dire encore? J'avais noté sur une pochette pour pas oublier. Ah oui, voilà. Je ne suis pas toujours très gentille avec toi. Je te fais la tête. Mais remarque bien, c'est toujours à cause de l'argent. Tu sais, quand j'étais dans ma première place, mes patrons se disputaient toujours à cause de l'argent. Ma patronne me disait, regardez Marion, regardez bien. Quand il n'y a plus de foin à l'écurie, les chevaux se battent. Tu comprends? C'est pour ça que je ne peux pas supporter la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est la médiocrité. Ça, je ne peux pas. J'espère que Jardine va te racheter toutes les parts de la fabrique et qu'on pourra être heureux ensemble. Je crois qu'il n'y a plus tellement de place sur le disque. Je vais te quitter maintenant et je te le ferai entendre dès que tu rentreras. Au revoir, Louis. Je t'aime.
J'ai lu les études critiques de Truffaut pendant pratiquement 4 ans. Je me suis aperçue, à mon étonnement et aussi à ma joie, que ce n'était pas vraiment un critique agressif et qu'au contraire, c'était quelqu'un qui était surtout très enthousiaste, mais qui, à côté de certaines prises de position assez terroristes, avait aussi des prises de position très tolérantes, très nuancées et surtout très cohérentes.
Je crois qu'il est plus difficile d'être critique maintenant, en 1972, qu'à l'époque où je l'étais. Parce qu'à l'époque où je l'étais, il y avait vraiment peu de bons films. Et il y avait une démarcation très nette entre les films commerciaux français qui étaient mauvais, les films commerciaux américains qui étaient en général assez bons, les films ambitieux français qui étaient rares et souvent bons. Et vous voyez, les catégories étaient bien marquées, bien tranchées. La production s'est complètement diversifiée à partir de la Nouvelle Vague, à partir de 1960. Et je crois que maintenant, il est réellement difficile d'être critique.
Avez-vous, à l'époque où vous étiez critique, désiré refaire des films ?
Je ne sais pas si j'ai souhaité refaire des films. Normalement, je trouve que ce n'est pas le rôle du critique. Le rôle du critique est d'essayer d'entrer dans la logique de la tête de celui qui a fait le film.
Mais vous étiez un critique constructif.
Mais il est certain d'un autre côté que lorsque le sujet me touchait ou lorsque j'avais des idées sur le sujet qui me semblaient avoir été trahies, oui, il m'est arrivé de dire le film aurait pu être fait comme ci, comme ça et raconter telle et telle chose de telle façon. Il m'est arrivé probablement parce que c'était l'apport pour moi. Le cinéphile regarde le film... Pour le cinéphile, le film est une drogue, vraiment. On peut voir un film 5-6 fois et on serait quand même incapable de le raconter. On s'en grise, on en connaît la musique, on le chante dans la rue, on y pense le matin et le soir. Et en fait, si abruptement on nous demandait de raconter des films que nous, pourtant nous avons vus souvent, eh bien souvent le cinéphile serait incapable. Tandis que le critique, pour moi, ça a été l'étape essentielle. Je pense que ça a été mon apprentissage du cinéma. La nécessité, si vous voulez, de résumer le sujet en 10 lignes fait que tout d'un coup, on se creuse la tête et on se retrouve devant la réalité. On dit, mais au fond, de quoi s'agissait-il dans ce film ? On est obligé quand même, surtout dans un hebdomadaire, pas dans un mensuel comme les Cahiers du cinéma, dans un hebdomadaire, il faut raconter le film et cette discipline est formidable. Parce que c'est, pour moi, ça a été mon apprentissage, en tout cas, de scénario, de scénariste, ça a été ça, la nécessité de se rappeler chaque fois de quoi il était question.
Y a-t-il d'ailleurs une grande différence entre un... je ne dirais pas un bon critique, disons un critique de cinéma et un cinéaste, sinon une question matérielle que l'un peut réaliser ses films et l'autre pas.
Je ne suis pas d'accord avec vous sur cette question parce que je crois qu'on ne peut pas, savoir si quelqu'un est cinéaste tant qu'il n'a pas impressionné un mètre de pellicule. Mais je crois qu'on peut être un très grand critique et un très mauvais cinéaste, je crois. Je crois parce qu'il y a quand même le passage à l'exécution est quelque chose de très particulier. Pour lequel on peut ne pas être doué absolument, vous voyez. La critique est un travail complètement solitaire, c'est un travail purement intellectuel. Faire un film, c'est de toute façon, c'est malgré tout un acte social. Et si on ne peut pas communiquer avec les gens, si on ne peut pas, par exemple, communiquer avec les acteurs, ou si on n'a pas un sens critique toujours en éveil, je crois qu'on ne peut pas faire un cinéaste, vous voyez. Les qualités ne sont pas les mêmes.
Si vous voulez, on reconnaissait dès le premier abord que c'était un moraliste parce que c'est très étrange, mais il employait un vocabulaire de moraliste. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Dès qu'on lisait ses critiques, on trouvait des termes de morale. C'est-à-dire, par exemple, il disait qu'un film était noble, qu'un personnage était décadent, qu'un film était abject. Et il employait des termes... Il parlait même de péché originel, de déchéance, etc. Et quand il attaquait des films, c'était toujours sous l'angle de la morale. Actuellement, la morale tient toujours la place la plus grande dans ces films, mais je pense que tout artiste, tout créateur, n'importe qui, ne peut pas écrire ou faire quelque chose sans que la morale intervienne.
Oui, il est certain que... La morale tenait une grande place dans mon jugement sur les films, oui. Je dirais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je remplacerai la morale par la logique. Je dirais, cet homme a voulu faire ce film, ce n'est pas ce qu'il a obtenu sur l'écran, et par manque de logique, vous voyez, je mettrais plus... j'attaquerai plus sur la logique de ses intentions, le cheminement, ce qui s'est passé entre ses intentions et son exécution, ou le flou qu'il y a eu dans sa tête, plutôt que de l'attaquer sur la morale. Mais ce serait peut-être à peu près la même chose quand même. Pourquoi je sens tout d'un coup que deux personnages se parlent l'un à côté de l'autre, et à un moment du dialogue qui est plus aigu, je dis à l'un, il faut absolument que vous fassiez trois pas en arrière, que vous éloigniez d'elle pour dire ça, et que vous reveniez vers elle après cette phrase. Ça, je ne pourrais même pas dire pourquoi, c'est parce que je le sens comme ça. Et souvent, ce ne sont pas des mauvaises indications, parce qu'en général, l'acteur est aidé par ces indications. Il dit, ah oui, en effet, ça m'aide de faire ça, ou ça m'aide de lever le bras quand je dis ça. Et ça, c'est parce que je crois que c'est comme ça dans la vie, il y a des choses qu'on dit. C'est le travail du metteur en scène de sentir, même quand il ne comprend pas pourquoi, de sentir pourquoi telle chose ne peut être dite que debout, telle chose ne peut être dite qu'assise, telle chose ne peut être dite qu'en s'éloignant, telle chose ne peut être dite qu'en s'approchant. Et c'est un travail qui se complète après par la grosseur des objectifs, c'est-à-dire qu'on sent aussi intimement que telle chose ne peut être dite que si on ne voit pas le corps entier de la personne, que si on ne voit que son visage et la moitié de son buste, alors que telle chose, au contraire, ne peut être dite presque que de dos, vous voyez. Le livre de Dominique Fan m'a bouleversé parce que j'ai eu l'impression qu'elle avait vu des choses de ma vie que des gens qui me connaissent très bien n'avaient pas vu, par exemple, et surtout que je n'avais pas vu moi-même, et que c'est vrai que pour beaucoup de choses, je croyais m'en être remis au hasard, je croyais avoir fait dire telle phrase à Jean-Pierre Léaud pour, comme ça, pour avoir une phrase gaie ou une phrase triste, et qu'en fait, cette phrase voulait dire quelque chose. Et les liens entre les films aussi, qu'elle a très bien vu, mis à jour. Seulement, vous comprenez que ça m'ennuie d'en parler, de même que ça m'ennuierait de trop bien connaître ce livre, vous voyez. Je l'ai lu une fois, deux fois, je ne le lirai plus maintenant. Je crois que je le laisserai de côté parce qu'il pourrait me gêner dans la suite de mon travail. C'est très difficile de le faire sans citer des exemples, mais il ne m'en vient pas là à l'esprit. Simplement, j'ai été profondément troublé. Il y a par exemple un chapitre sur les changements de nom des personnages. Ce sont des choses que je croyais des humeurs de ma part, qui n'étaient pas des humeurs, qui avaient effectivement à voir. Par exemple, les problèmes d'identité est une chose dont je n'étais absolument pas conscient dans mes films. Je ne me rendais pas compte que sur 12 films, deux tiers abordaient ce problème avec anxiété, même si c'était des incidences dans l'histoire, par exemple. Or, elle ne pouvait pas... La jeune femme qui a écrit ce livre ne pouvait pas connaître ma vie, je veux dire, ne pouvait pas savoir que c'était des choses qui effectivement avaient été préoccupantes. Donc elle a deviné, là, je veux dire, c'est un petit peu diabolique, voilà, son travail.
Cette histoire de changement de nom, de prénom d'ailleurs plutôt, dans les films de Truffaut, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. D'abord parce que cela m'est assez personnel. Je veux dire que j'aime changer de prénom. C'est quelque chose qui m'excite beaucoup, le fait que quelqu'un change de prénom. Et lorsque j'ai étudié les films de François Truffaut, j'ai lu les scripts, j'ai lu aussi les livres, lorsque les films étaient adaptés de livres. Et tout de suite, j'ai remarqué que très souvent, du script au film, il y avait changement de nom, changement de prénom. Par exemple, dans le script des 400 coups, le personnage de Jean-Pierre Léaud s'appelle Antoine Loineau. Et puis dans le film, il devient Antoine Doinel. C'est un petit exemple. Et d'autre part, à l'intérieur des films eux-mêmes, les personnages, très souvent, changent de prénom. Par exemple, dans Tirer sur le pianiste, le personnage du pianiste s'appelle Charlie Coller, mais il s'appelle aussi William Saroyan. Dans La sirène du Mississippi, Catherine Deneuve s'appelle Julie Roussel, mais elle s'appelle aussi Marion Bergamo. Et pratiquement dans tous les films, il y a ces prénoms qui sont doubles ou parfois même triples. Et cela m'a intéressée parce que les personnages de Truffaut, très souvent, sont des gens qui sont à la recherche de leur identité.
Claude.
Une fois encore, Muriel venait de trahir son secret, dévoilant en même temps la violence et la force de son amour si longtemps contenu.
Anne la raccompagna au Pays de Galles, comme une blessée. Voici la lettre d'adieu que Muriel adressa à Claude.
Claude, vous le savez, Anne m'a parlé enfin sans crainte de me faire mal. J'ai été remplie d'horreur. Maintenant, je suis calme. Je sais qu'Anne vous aime et qu'elle mourra sans changer d'idée. Elle vous a aimé la première. Elle a renoncé sans un mot quand elle nous a vus ensemble en Angleterre. Mon égoïsme m'a empêché de deviner. Elle vous a apporté à moi. Elle a presque réussi à nous fiancer. Si une femme comme Anne ou comme moi se donne à un homme, elle est sa femme. Claude, voudriez-vous avoir deux femmes qui soient sœurs? Anne et moi, nous aimons le même homme, c'est tragique, mais pas extraordinaire. Je penserai peut-être à vous toute ma vie, mais une certaine partie de moi vous a quitté l'autre soir. Dans une heure, je pars pour l'Angleterre. Je vous demande pardon pour notre long baiser.
Dès le premier film des Lémistons, on voit apparaître une carte postale. Les Mistons, qui sont des petits garçons de Nîmes, envoient une carte postale à Gérard et Bernadette, joués par Gérard Blin et Bernadette Lafont, qui sont deux amoureux. Et les Mistons leur envoient une carte postale méchante, enfin assez cruelle, pour essayer pratiquement de, plus ou moins, de détruire l'amour qui existe entre Gérard et Bernadette. Et dans tous les films de Truffaut, les personnages s'écrivent, s'envoient des lettres. Les livres sont eux aussi des instruments de rencontre et de rupture, à peu près dans tous les films.
Pour ce qui est de l'écriture, eh bien effectivement, j'écris beaucoup de lettres. Et il m'arrive de préférer les lettres au téléphone, par exemple. Et on peut aller plus loin, parce qu'on peut dire qu'à la limite, ça revient à dire préférer le monologue au dialogue. Vous voyez, c'est même un peu dangereux. Ça peut vouloir dire aussi qu'on veut fuir la discussion. Alors dans les films, c'est pareil, il y a probablement beaucoup de lettres parce que, voilà, parce que j'écris.
Quand on lit ses scripts, quand on lit ses notes, ses esquisses, on peut y trouver beaucoup de charme, mais quand on voit ses films, moi, quand je vois ses films, je trouve que c'est un cinéaste.
Ma première réaction a été de penser que je serais romancier, vous voyez, surtout quand j'ai lu Thérèse Raquin, quand j'ai lu La peau de chagrin, j'ai pensé que je deviendrais romancier. Ça, c'était, disons, pendant la guerre, vous voyez, j'avais 11 ans à peu près, en 1943. Et puis, à la Libération, les films américains sont arrivés et je crois que mon intérêt s'est déplacé vraiment vers le cinéma. Mais après, il a été jumelé, disons que j'ai eu un intérêt jumelé pour les livres et les films. On en trouve bien évidemment la trace dans un film comme Fahrenheit, qui est justement en Fahrenheit 451, qui est consacré aux livres. Vous voyez, c'est un film sur les livres en général. Et puis d'autres films comme Jules et Jim ou les Anglaises sont sur un livre en particulier.
Je me suis aperçue que très souvent, le film que François Truffaut tirait d'un roman, ce film ressemblait à l'œuvre entière de l'auteur. Seulement, il faut dire qu'il ne choisit pas ses romanciers au hasard, c'est-à-dire que par exemple, s'il adapte un livre, ça va être un livre de William Irish. Or, William Irish écrit des livres qui, eux aussi, ont des correspondances entre eux. Donc, si vous voulez, il choisit ses auteurs parmi des gens qui, eux aussi, ont un univers obsessionnel. Et souvent, cet univers obsessionnel ressemble au sien. Et je crois qu'on peut dire ça d'Irish, de David Goodis, de Henri-Pierre Rocher, pratiquement de tous les auteurs qu'il a adaptés, même Bradbury.
Effectivement, je n'ai jamais fait ce qu'on appelle des adaptations traditionnelles. L'adaptation traditionnelle qui consiste à prendre un livre, à le diviser en un certain nombre de scènes. Ces scènes, on va les filmer. Et moi, je ne suis pas très favorable à cette forme d'adaptation parce que c'est au fond transformer un roman en pièce de théâtre puis après filmer cette pièce de théâtre. C'était en tout cas sur cet argument-là, sur cette base-là, que j'ai attaqué tellement de films il y a une quinzaine d'années, des films comme Le Rouge et le Noir de Claude Autant-Lara ou tout le travail de Ranché Bost ou Le Blé en Herbe ou les Dieu a besoin des hommes ou même Le Diable au corps. J'étais un adversaire de ces films-là parce que je considérais que c'était des romans qui étaient magnifiques, dont on avait trahi la prose puisqu'on l'avait abandonnée, dont on avait retenu que les faits pour les transposer grossièrement comme dans les films d'action très frustes. Et je pensais que si la beauté d'un livre est dans sa prose, eh bien cette prose, il n'y a aucun inconvénient à la faire entendre au spectateur. Alors j'étais plutôt partisan d'adaptations respectueuses comme Journal d'un curé de campagne de Bresson ou Les enfants terribles de Cocteau-Melville. Et quand j'ai adapté des livres, eh bien j'ai suivi ce principe-là. ça va de L'enfant sauvage, qui est pas vraiment un livre, mais enfin qui est un rapport quand même d'un médecin écrit dans une langue splendide et dont on entend au fond le texte en même temps qu'on voit le film, à l'adaptation des Anglaises et Julie Jim, où on entend également la prose d'Henri Pierre Rocher. D'un autre côté, effectivement, pour adapter ces livres, où quand même un minimum de trahison est nécessaire, de choses qu'on est obligé de supprimer, de choses qu'on est obligé d'inventer, plutôt que de faire tout ça sur du vide, je préfère m'imprégner de toute l'œuvre de l'écrivain. Effectivement, j'ai lu tout David Goudis pour faire tirer sur le pianiste, j'ai lu tout Irish pour faire la mariée et la sirène, parce que je trouve qu'on vit à ce moment-là dans un espèce de bain, qui est le bain de l'auteur, et ça permet d'avoir des idées qui seraient, ou de prendre des idées effectivement dans d'autres livres, ça ne me choque pas, ou même d'inventer des idées qui sont dignes de lui ou qui sont de son esprit, voilà.
Je vais reprendre toute l'histoire comme je l'ai vécue moi-même. C'est la générosité, l'innocence, la vulnérabilité de Jules qui m'ont éblouie et conquise. Un tel contraste avec les autres hommes. Je pensais le guérir par la joie des crises où il perd des pieds, mais j'ai compris que ces crises sont une partie de lui-même. Le bonheur, car nous avons été heureux, ne s'est pas installé et nous nous sommes retrouvés face à face, non mêlés. La guerre éclate, départ de Jules vers l'Est. Il m'écrit des lettres d'amour fougueuses, admirables. De loin, je l'aimais davantage, je lui refis une auréole. Notre dernier malentendu, notre véritable rupture date de sa première permission. Je me suis sentie entre les bras d'un étranger. Il est reparti. Sabine est née 9 mois plus tard.
Elle n'en ressemble pas beaucoup à Jules.
Croyez ce que vous voudrez, elle est de lui. Mais je lui ai dit, je t'ai donné une petite fille, c'est assez pour moi. Ce chapitre est clos, faisons chambre à part. Je reprends ma liberté. Vous vous rappelez notre jeune ami Fortunio?
Oui.
Il était là, libre comme l'air, moi aussi. Il a été un gentil partenaire. Quelles vacances. Mais il était trop jeune. Ce n'était pas sérieux. Et un beau jour, à ma surprise, l'indulgence, le loisir de Jules m'ont manqué. Ma fille m'attirait comme un aimant, je n'étais pas dans mon chemin. Je suis partie. Je ne suis rentrée ici que depuis 3 mois.
François Truffaut est un homme plein de contradictions. Dites-vous, avez-vous dit, avez-vous remarqué dans ses critiques, remarquez-vous dans ses films, et vous parlez même, je crois que vous avez créé le mot, vous parlez de la loi truffaldienne. Pouvez-vous m'expliquer cette loi ?
L'utilisation du mot truffaldien, c'est un mot que j'aimais beaucoup et qui en plus n'est pas logique, parce que si on regarde l'écriture de Truffaut, on devrait dire truffaussien. Et moi, je trouvais que truffaussien, c'était affreux, et que truffaldien, c'était très joli. Et j'aimais bien l'idée de... D'ailleurs, je ne sais pas du tout si je l'ai créé, peut-être que d'autres personnes l'ont employé avant moi, mais j'aimais bien l'idée de mettre ce mot truffaldien. Je trouvais que c'était un mot qui était beau.
Je crois que ces contradictions, ben, elles sont destinées, elles, si vous voulez, on peut les verser dans la rubrique de la nécessité d'être vivant. Elles viennent, qui m'a influencé le plus dans le cinéma, c'est finalement Renoir quand même, qui est le cinéaste le plus vivant, celui qui a respecté le plus la vérité des êtres humains, des gens qu'il mettait en scène devant l'écran, des personnages et des acteurs. Et ben, Renoir nous a appris ça. Renoir nous a appris dans La règle du jeu, par exemple, ce qui est terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. Hein, c'est une très bonne phrase de La règle du jeu, et c'est une chose que je ressens quand j'ai des... C'est pour ça que on revient à l'idée que je refuse d'avoir des personnages privilégiés et d'autres qui sont négligés ou d'autres qui seraient jugés inférieurs. Il y a un premier degré dans le cinéma qui est de donner aux méchants une tête de traître et de faire sourire les gens gentils. Et puis il y a évidemment une réaction contre ça qui est de rendre le méchant assez onctueux, très civilisé, ça c'est comme dans les films d'Hitchcock par exemple, et puis les gens gentils de leur donner au contraire quelque chose de presque comment rébarbatif au début, de façon à ce qu'on ne découvre, comme dans la vie d'ailleurs, qu'au bout d'un certain temps, qu'ils sont très bien. Vous voyez, ce sont des réactions qui sont quelquefois des réactions contre les poncifs du cinéma, quelquefois par rapport à une idée de la vie, et elles vont toutes dans le même sens. Je veux dire, il n'y a pas d'art sans paradoxe, il y a toujours un petit peu de paradoxe. Alors ce paradoxe, on l'exerce, je vous dis, soit par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'a imposé la tradition et qu'on trouve faux, soit par rapport à une image de la vie.
Il met en scène un homme et une femme, et en général, la relation entre l'homme et la femme se termine toujours très mal, et souvent aussi, la femme est plus forte que l'homme. Mais je ne crois pas que son cinéma valorise la femme. Je crois, si vous voulez, que c'est un cinéaste relativement réaliste. C'est-à-dire qu'en général, la plupart des films, depuis que le cinéma existe, ont été faits par des hommes. Et il est peut-être un des premiers cinéastes, avec quand même, je crois, Ophuls et Rossellini, à avoir montré les relations entre hommes et femmes, peut-être de la façon dont une femme les verrait.
J'ai dit au début de cette conversation que les femmes aimaient mieux mes films que les hommes. Et effectivement, les hommes ont souvent été irrités dans mes films par la représentation masculine que je donne. Je montre des hommes faibles parce que je ne crois pas aux hommes forts. Vous voyez, j'ai souvent blagué là-dessus sur l'idée que pour moi, le général de Gaulle, vu par sa femme, devait être un petit enfant capricieux qui oubliait de mettre son écharpe. Et ça, je le crois profondément, que les hommes jouent une comédie sociale, mais que quand on les empêche de jouer cette comédie sociale, ils sont des enfants qui continuent à jouer aux petits soldats dans la vie. Et je me refuse à les montrer, à les prendre au sérieux dans leur représentation sociale. Et ça, je crois que c'est un point commun que j'ai avec les femmes. Les femmes ne prennent pas les hommes au sérieux. Dans les histoires d'amour, puisque j'ai filmé pas mal d'histoires d'amour, les hommes sont démunis. Là, ils se conduisent vraiment comme des amateurs par rapport aux femmes qui ne se conduisent pas forcément en professionnel, mais qui au moins ont le mérite d'y avoir beaucoup pensé. Les femmes ne se contentent pas de vivre une histoire d'amour, elles la pensent en même temps, elles la commentent, elles disent « Tiens, en ce moment, notre couple marche, en ce moment, notre couple ne marche pas, il faudrait que notre couple marche mieux, il faudrait... » Vous voyez, et puis elles quittent une aventure, elles entrent dans une autre. Tout ça avec comme si c'était un métier, comme si c'était une profession d'être femme. Alors qu'un homme, justement parce qu'il est pris par sa comédie sociale, dans une histoire d'amour, il est pris complètement dépourvu quand ça commence et quand ça finit. C'est ça que je montre dans les films, vous voyez, et c'est ça qui, quelquefois, plaît aux femmes, dans le cas d'un film comme La peau douce, par exemple, où les femmes adhéraient complètement et où les hommes, en général, étaient assez heurtés parce qu'ils disent « Qu'est-ce que c'est, ce type? Il n'est pas viril. » Mais qui est viril dans la vie? Moi, j'ai jamais vu un homme viril. Je n'y crois absolument pas, vous voyez. Même quand l'apparence est virile, comme Lino Ventura, je ne crois pas que l'homme le soit. Je ferais sûrement un mauvais film avec Lino Ventura parce que je ferais un film qui serait en opposition avec son apparence de sérieux, de solidité. J'essaierais de montrer tout ce qui craque ou tout ce qui est fragile en lui. Son public habituel serait très déçu, lui serait peut-être également mécontent, et on aurait un malentendu de plus, puisque j'ai comme ça quelques films à malentendu.
Parlez-moi de l'enfant dans l'œuvre de Truffaut, la belle place qu'il a.
La place que l'enfant occupe dans l'œuvre de François Truffaut, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, je crois qu'il y a quelque chose de très intime chez lui, et je pense que pratiquement c'est impossible d'en parler. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'aurais probablement pu en parler, mais maintenant que j'ai écrit le livre, je veux dire, c'est devenu trop intime pour que je puisse l'expliquer.
Il y a une vérité des enfants qui est assez négligée au cinéma, donc je sens là un domaine où j'ai des choses à dire. Et parce qu'en général, on ne met pas d'enfants dans les films, on les met que quand ils sont vraiment nécessaires, on n'aime pas mélanger les enfants et les adultes, et on arrive à une espèce d'injustice que la représentation des enfants dans les films n'est pas proportionnelle à leur importance dans la vie. Voilà une remarque que j'ai toujours faite. Et à cause de ça, ça ne me gêne jamais dans une histoire d'ajouter un enfant. J'ai l'impression d'être encore une fois plus fidèle à la vie si j'ajoute un enfant, même dans une histoire qui ne concerne pas l'enfance.
Comment concevez-vous la direction des enfants dans un film? À l'époque où vous étiez critique, vous n'avez pas aimé de nombreux films mettant en scène des enfants?
Oui, j'étais très difficile avec les enfants cinéma parce que c'est un domaine qui est presque sacré. C'est-à-dire que quand on fait une chose mal avec des adultes, bon, on fait une chose mal avec des adultes, ils peuvent se défendre. Quand on fait une chose qui n'est pas bien avec des enfants, ça touche au blasphème parce que l'enfance est sacrée. Il y a quelque chose, je crois que presque tout le monde est d'accord sur cette idée que l'enfance est sacrée parce qu'elle est innocente, parce que le combat n'est pas égal. Donc on doit être... De même qu'on doit se conduire mieux avec les enfants qu'avec n'importe qui. Et c'est pareil, évidemment, en art, c'est pareil en cinéma. Et une chose que je trouve odieuse, c'est de faire dire à des enfants des choses qui vous arrangent, des dialogues adultes, des faux mots d'enfants, de leur donner des réactions d'une psychologie qui est à soi. Et curieusement, on peut imaginer que dans un drame dans la vie, et auquel seront mêlés des enfants, par exemple un divorce, on peut imaginer que des enfants auront des mots qui seront en relation avec cette situation. N'empêche que si on fait le film, eh bien, il est dégoûtant d'inventer ces mots. Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, le fait même que l'enfance est censée être spontanée, être, qu'on ne peut pas donner à un enfant une chose vraiment écrite et articulée, le seul moyen de montrer des enfants vrais dans une situation, c'est de ne pas leur faire parler de cette situation. Oui, c'est une chose. Kayat fera toujours le contraire parce qu'il a besoin que son film avance. Alors André Kayat, qui est un cinéaste que j'ai beaucoup attaqué comme critique, je l'attaquerai toujours parce que c'est une idée du cinéma, si vous voulez, qui est complètement opposée à tout ce que je crois, tout ce que je pense. Bon, bah Kayat, je sais bien que dans une situation de divorce, il fera dire au petit garçon, je suis très triste depuis que maman est partie, je veux que papa revienne. Bon, je ne sais quoi. Et ces phrases me rendront malade de colère parce que je sais que le cinéma doit donner une impression de vérité, que cette impression de vérité ne peut pas marcher avec un enfant disant des phrases que j'appelle des phrases utilitaires. Parce qu'il y aura aussi la vie qui est plus forte, et je sais très bien que ce qui est frappant dans la vie, c'est qu'on arrivera un jour dans cette maison et que l'enfant sera en train de jouer comme si de rien n'était. Son problème sera dans sa tête, vous voyez, parce que c'est un enfant. Alors je trouve qu'en suivant l'enfant d'une façon très documentaire à ce moment-là, on verra peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre dans son regard ou dans sa tête, mais il faut le filmer normalement, en train de jouer, le filmer dans une chose qui apparemment n'a pas de rapport avec la situation. Je crois que ça, c'est plus honnête. Et qu'à la fois, le résultat artistique sera plus net aussi, sera plus pur.
Le couple, on l'a vu sous toutes ses formes dans vos films. L'homme, la femme, les deux hommes, Julie et Jim. Est-ce que vous êtes en quête d'une morale de vie ?
Non, je crois que c'est un domaine, ce qui est curieux avec les histoires d'amour, je trouve, c'est qu'on n'en a jamais fini, mais jamais fini. Vous voyez, quand vous avez une histoire particulière, comme le pont de la rivière Kouai, bon, bah, vous faites le pont de la rivière Kouai, c'est fait, un point, c'est tout. Vous ne pouvez pas, l'année suivante, faire une autre histoire d'une armée qui construit un pont et qui, en même temps, devrait le détruire parce que ce pont va servir à l'ennemi. Vous l'avez usé, ce sujet, c'est une histoire particulière. Elle ne peut plus être traitée où il faut attendre 10 ans. Vous avez un couple qui marchait bien, qui se fâche et puis qui finalement va se donner un délai pour réfléchir et va se réconcilier. Eh bien, ce film-là, vous pouvez le faire 12 fois dans l'année. Vous pouvez le faire en comédie, vous pouvez le faire en drame, vous pouvez le faire... Et je dirais même, vous pouvez le faire en changeant d'acteur. C'est encore un autre film. Vous pouvez le faire... Ça vient de ce que ces choses-là sont personnelles, comme les empreintes digitales. Elles appartiennent à une seule personne et chaque personne a son histoire d'amour. Je pense que ces 10 personnes ont vécu le même drame. Le fait que c'était pas la même personne, que l'une était brune, l'autre était petite, l'autre était vierge, l'autre était catholique, l'autre était... Eh bien, fait que chacune mérite d'être racontée. C'est ce qu'il y a de beau dans les histoires d'amour.
Je t'aime, Louis. Je t'aime. Peut-être que tu ne me crois pas, mais il y a des choses incroyables qui sont vraies. Courage, mon amour. Nous allons partir loin d'ici. Et puis nous resterons toujours ensemble, si tu veux encore de moi.
Mais c'est toi que je veux. Rien que toi. Tel que tu es. Absolument. Allez, pleure pas. C'est ton bonheur que je veux, pas tes larmes. Oh.
Alors, je viens à l'amour, oui. Le mal, oui. Le mal. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que l'amour fait mal?
Oui, ça fait mal.
Il y a à l'intérieur de vos films et d'un film à l'autre un équilibre entre le comique et le dramatique. Dominique Fan a, dit-elle, souffert en voyant Les Deux Anglaises et le Continent. Et je cite, « Le cinéaste met à nu des sentiments et nous avons peur d'être indiscrets. » Est-ce que vous avez souffert, vous, en tournant Les Deux Anglaises? Et est-ce pour cela que votre prochain film, que vous venez de tourner, a une note dominante comique?
Certainement, il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai là-dedans. C'est qu'il y a un moment aussi où on a un peu une révolte. On a beau se dire il faut travailler sans se soucier de ce qu'on dit. Il y a un moment où on est quand même envahi par ce qui se dit et on en a assez d'être le cinéaste de la demi-teinte, le cinéaste de la nuance, de la... Et on a envie de forcer un peu sur les dosages. Alors probablement parce que les Anglaises mettaient en scène des personnages jeunes pour qui l'amour vraiment ne peut être que pris très au sérieux. J'ai senti la nécessité de faire le film très dramatique, Il n'a pas été pénible à tourner du tout, mais c'est vrai que c'est un film un peu oppressant qui me fait un peu mal à voir même, parce que c'est pas... On fait pleurer des acteurs, bon, parce qu'ils savent le faire, ils peuvent le faire, et c'est bon pour le film, c'est nécessaire. Mais après, je n'ai pas assez de sadisme en moi pour prendre du plaisir à ça, vous voyez. Il y a une bobine entière où... qui est l'espèce de, qu'on appelait, je crois, quand on faisait le montage, on donne des titres aux parties du film comme ça, alors on disait les désolations de Muriel. Mais cette bobine que j'aime beaucoup parce qu'elle est très réussie comme jeu d'acteur, comme photo, comme musique, comme texte, elle me fait mal, et c'est un genre de film que je n'aime pas revoir, vous voyez, alors que je pourrais voir Baiser volé avec du public, c'est très amusant parce que les gens s'amusent infiniment. Alors pour ça, je ne suis pas différent du public. Et probablement parce que j'ai été si loin dans l'espèce de description de la violence amoureuse dans les Anglais, j'ai eu envie, dans le film suivant, Une belle fille comme moi, que je viens de terminer, j'ai eu envie de, également d'être purement comique cette fois-ci, de n'avoir pratiquement aucune scène sentimentale dans un film. Mais on ne fait jamais tout à fait ce qu'on veut. Il y a le film qui est là, la réalité qui est plus forte. Alors je crois qu'il y a quelques scènes qui sont très cruelles ou qui finalement, peut-être le rire se glacera dans la gorge, je ne sais pas.
Je n'ai pas vu le film, donc. Ça m'est difficile d'en parler, j'ai simplement lu le script et lu aussi le roman, mais je trouve que si le film fait rire, c'est un film extrêmement tragique parce que tous les rapports entre les personnages sont des rapports de cruauté et jamais entre les personnages il n'y a le moindre rapport de complicité. Donc Une belle fille comme moi sera peut-être un film drôle, mais je crois que ce sera un film extrêmement pessimiste.
En 12 ans de film, l'univers de François Truffaut a évolué?
Ça, c'est pas une question pour moi. C'est une question pour Dominique Fan, vous voyez. Je ne sais pas, absolument pas. Moi, je m'occupe pas trop d'évolution, si vous voulez. Je n'aimerais pas être quelqu'un qui a fait le meilleur. Oh, quoi que, peut-être, on fait forcément le meilleur en commençant. J'ai toujours eu une théorie, je sais pas si elle est vraie ou fausse, que les films les plus nécessaires sont les trois premiers qu'on fait, vous voyez. Parce que le premier, on donne vraiment tout. On donne 20 ans de sa vie, il y a une accumulation. En général, d'ailleurs, le premier film est toujours trop riche parce qu'on veut mettre trop de choses. Le deuxième, au contraire, est toujours plus nu parce qu'on réagit contre le premier. Donc il est à partir d'éléments beaucoup plus stricts, plus nus, plus dépouillés. Et en général, il est plus esthétique aussi parce qu'on s'occupe plus de la forme dans le deuxième. Et le troisième est un film de réconciliation entre les deux premiers. Et après le troisième, je trouve que c'est la carrière qui commence. Et que la carrière, bon, ben, on pourrait très bien ne pas en faire. On pourrait très bien. Donc, je trouve qu'on pourrait mourir après le troisième film si on a fait les trois en liberté, les trois premiers en liberté. Mourir ou se taire. Mais en fait, c'est ce qui est beau dans les métiers artistiques, en tout cas, et dans le cinéma aussi, c'est que la preuve que c'est un beau métier, c'est que personne n'a envie d'en changer.
Je crois que l'univers de François Truffaut aura forcément je n'aime pas le mot noyau, mais si vous voulez, aura forcément un centre qui restera toujours. Mais je crois aussi qu'en faisant des films, petit à petit, il y a de plus en plus une lucidité vis-à-vis de ces problèmes. Ces idées vont être exprimées d'une façon beaucoup plus extrême, d'une façon beaucoup plus paroxysme. Les relations entre les gens, les problèmes des relations entre les gens vont être exprimés d'une façon beaucoup plus directe. Déjà, les deux Anglaises et le continent, je pense qu'ils n'auraient jamais pu faire ce film il y a 7 ou 8 ans. Je veux dire, ils n'auraient jamais pu aller aussi loin dans l'analyse de la souffrance, dans l'analyse du déchirement il y a 10 ans. Et de la même façon, je vous parlais du film Une belle fille comme moi. Je pense qu'avec Une belle fille comme moi, là aussi, il va au bout de certaines idées. Peut-être parce qu'il a pris ses distances vis-à-vis de ses obsessions, il peut aller beaucoup plus loin.
J'ai le désir d'aller plus fort dans toutes sortes de directions. Je continue à ne pas pouvoir filmer un certain nombre de choses. Je ne peux pas filmer la violence. Je me vois pas du jour au lendemain filmant avec plaisir des gens qui se donnent des coups de pied dans le ventre les uns les autres. C'est un truc qui m'énerve, qui m'énerve comme spectateur et qui est insoutenable pour moi. Je n'aurais pas envie de le filmer. Je crois que j'aurais toujours des grosses allergies, des fortes allergies à un certain nombre de choses que je ne... Mais peut-être que l'intérêt s'ouvre. Par exemple, Quelques années avant de faire L'Enfant Sauvage, je n'aurais jamais pensé que je ferais ce film. Je n'aurais jamais pensé que je ferais un film dont le personnage principal serait un médecin, par exemple, et puis un enfant muet, et que, en plus, je jouerais moi-même le rôle du médecin. Vous voyez, donc dans ce film, il y a eu plein de choses nouvelles pour moi. Par exemple, ça a éveillé mon intérêt pour les histoires vraies, pour les choses historiques, pour des choses vraies dont on suit le cheminement le plus réellement possible. Alors, peut-être que l'intérêt, l'éventail de mon intérêt s'ouvre un peu.
Thank you.
C'était Au film des pages, François Truffaut, avec Dominique Fan, auteur de L'univers de François Truffaut, collection 7e art, édition du Cerf. Émission de Michel Bijbois, diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 mai 1972. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.